Alors, je voulais vous parler de l'émerveillement. C'est un thème qui m'est assez cher. Et je trouve que c'est un beau thème de carême, et c'est un thème qui est rarement traité. C'est un thème qui est rarement traité, tout simplement parce que, voilà, on se demande qu'est-ce que c'est, en quoi consiste l'émerveillement. Mais d'où m'est venu l'intérêt pour cette question-là ? Ça m'est venu de mes études de philosophie. J'ai été très marqué par mes études de philosophie. Vous savez que quand on se prépare à devenir prêtre, on fait à la fois des études de philosophie et des études de théologie. J'étais plus marqué par mes études de philosophie que de théologie. Et j'ai fait mes études de philosophie à partir d'Aristote, surtout, commenté par saint Thomas d'Aquin. Et au début, quand on nous introduit comme ça dans la philosophie, c'est-à-dire la connaissance, une sagesse, être ami de la sagesse, Aristote commence par dire, au fond, toute la connaissance, toute la philosophie commence par une admiration, par un émerveillement, qui me fait poser la question, qu'est-ce que c'est ? La question de l'être. Et donc je vois les choses, et je trouve ça très beau qu'au fond, à travers ce regard païen de 4-5 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, Aristote nous donne une clé aussi pour nous chrétiens. Au principe de la connaissance, on ne peut pas connaître quelque chose vraiment si on n'a pas d'admiration. Et j'allais dire, c'en est la même chose, c'est de même pour le réel qui nous entoure, mais aussi pour le prochain qui est à nos côtés, l'émerveillement, mais aussi pour Dieu. Et je trouve que, au fond, le Seigneur se manifeste à nous au fur et à mesure où nous-mêmes, nous rentrons dans une attitude d'admiration, d'offrande, d'émerveillement face à lui. Vous voyez, le fait que la connaissance demande une réciprocité entre l'être qui est là, animé ou inanimé, mais et moi-même, ça veut dire un accueil du réel. Et je trouve ça intéressant, même si c'est un aspect philosophique, mais vous voyez, les résonances spirituelles sont très importantes, à tel point que connaître, c'est naître avec. Je ne peux pas connaître quelque chose en restant complètement extérieur. Il faut que je me livre. Et pour me livrer à cette chose que je connais, évidemment, plus la chose connue est élevée, plus le don de moi-même aussi doit être en proportion, eh bien, je connais comme moi je suis connu, hein, nous dit Jésus dans l'Évangile. Alors, l'émerveillement, je trouve, c'est une clé. Et l'émerveillement, c'est une question de regard. Et je parle de cette question d'émerveillement au sein même de l'année de la foi, qui, la foi, c'est un certain regard porté sur la réalité. Et je pense que c'est très important que nous prenions conscience de ça. C'est une certaine manière de voir les choses, à travers la parole de Dieu qui nous est donnée, à travers les sacrements de l'Église, notre regard s'affine, on ne voit pas simplement du pain et du vin, on voit le corps et le sang du Seigneur. On n'entend pas simplement des paroles quand on va se confesser, on reçoit le pardon de Jésus. Et donc ce regard qui vient de la foi et qui vient de l'intérieur rejoint aussi l'émerveillement. Au fond, c'est à travers cet regard intérieur qu'on peut découvrir aussi que on a besoin d'une bienveillance. On ne peut pas avoir d'émerveillement, on ne peut pas connaître sans une bienveillance. Une bienveillance face à ce qui m'entoure et face à ce que je suis. Parce qu'il peut y avoir aussi un émerveillement face à moi-même. On voit bien avec la Vierge Marie, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle loue le Seigneur, non pas dans une attitude d'orgueil, de repli sur soi, mais elle loue le Seigneur pour l'œuvre de Dieu en elle. Et je crois que nous-mêmes, nous avons, en particulier franco-français, nous avons à travailler ça. Il y a des pays où c'est très différent. J'ai vécu longtemps en Amérique latine, en Argentine, et là, il y a une bienveillance, j'allais dire, un peu naturelle. Et vous seriez, peut-être certains ont vécu aux États-Unis ou ont travaillé aux États-Unis, etc., vous seriez des Noirs américains, par exemple. Mais ça fait longtemps que vous seriez debout en train de me soutenir. Allez-y, on est avec toi, ce que tu dis, c'est super. Vas-y, continue. Le prédicateur ne peut plus en placer une, grosso modo. Mais voilà. Alors que nous, en France, on a plus du mal. On est plus dans la critique. On est plus dans un certain perfectionnisme, si vous voulez. On est moins dans la bienveillance. Et je crois que notre regard, alors c'est pas sans un certain avantage par ailleurs, parce que ça devient une certaine exigence, mais il faut faire attention de ne pas enfermer l'autre dans nos critères d'efficacité et de perfection. Il faut faire attention, parce que du coup on perd l'émerveillement. Et on a une telle facilité à voir le point noir dans la page blanche, je sais pas si c'est une grâce franco-française, mais je pense que quelque part c'est une maladie spirituelle aussi. Vous voyez, moi, je vois bien moi-même, on ne voit pas d'abord le positif, on ne voit pas d'abord quelque chose qui me pousse à l'action de grâce, à l'admiration, à la bienveillance, à la reconnaissance, tac, tout de suite. Hop, je signale, tiens, celui-là, tiens, t'as vu, tac, tac, tac. Et puis ensuite, j'enferme l'autre petit à petit dans une liste de défauts. Et dans ce sens-là, l'émerveillement est clairement un effort de carême. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les choses. Hein, il n'est pas interdit d'être intelligent non plus. Hein, ça veut dire que, bien sûr, qu'on voit les choses, mais on les voit dans une attitude bienveillante. Et ça, ça demande, en amont, que l'intelligence soit humble. Parce que si la connaissance demande un émerveillement, la connaissance, donc, vient de l'intelligence. Mais c'est une intelligence qui a grandi dans l'humilité. C'est une intelligence qui s'est mise à l'écoute du réel. Parce qu'il y a un combat spirituel dans l'intelligence. L'intelligence peut tout à fait se replier sur elle-même, se prendre elle-même comme source. Et dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas le réel qui est premier, ce n'est pas ce qui m'entoure qui est premier, c'est moi qui suis premier avec mes catégories. Et donc je trouve que, au fond, pour rentrer dans cette démarche de conversion, c'est aussi une démarche de conversion non seulement du regard, mais une démarche de conversion de notre intelligence, de se mettre à l'écoute du réel, d'accueillir le réel comme un don. Que ce réel soit parfois difficile, que ce réel soit joyeux, c'est au fond, c'est accepter de renaître. Hein, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'y entrerez pas. Accepter de renaître d'en haut, c'est-à-dire accepter d'avoir un regard du réel comme le recevant de la main du Seigneur. Et j'aime bien cette phrase du grand philosophe Pascal qui dit les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Je trouve ça formidable comme phrase. C'est-à-dire que on est dans une attitude de décentrement, on est dans une attitude d'écoute, d'admiration, d'émerveillement face au réel, en tout cas d'humilité, même s'il y a des réalités douloureuses à vivre, et comme le Père Stéphane l'a évoqué, voilà, la mort en fait partie aussi. Mais nous savons que le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Le dernier mot sur toute chose. Et ça, je crois que c'est très important parce que sinon, il y a une autre attitude qui est contraire à l'émerveillement. C'est la colère. C'est la colère. Ça m'est, vous voyez, quelque part, ça m'est dû. On voit pas la vie comme un don, on voit la vie comme un dû. Et ça ne rend pas heureux. Très clairement. Ça ne rend pas heureux. Et ça ne fait pas connaître Dieu. Et donc, du coup, je crois que c'est important pour nous d'opérer comme un décentrage de nous-mêmes, dans le sens où je ne me mets pas en premier, mais je mets l'autre aussi en premier. S'émerveiller, c'est, dans ce sens-là, un certain sacrifice, un certain effort. Ce n'est pas seulement une attitude psychologique. Hein, c'est pas pensée positive, c'est pas la positive attitude. C'est une attitude de foi. Parce qu'on dit, oui, bah oui, c'est bien, mais vous êtes un peu naïf, vous ne voyez pas la réalité des choses comme elle est, et puis vous êtes un optimiste. Je peux très bien, psychologiquement, être plutôt pessimiste, mais spirituellement, m'émerveiller. Dans la foi. De ce que je peux vous. Vous voyez, c'est aussi une guérison, l'émerveillement, la louange est une guérison, opère une guérison intérieure. Et ça, je pense que c'est très important de dire que nous ne sommes pas réduits à nos psychologies blessées. Nous ne sommes pas réduits à nos psychologies blessées. Nous croyons que le Seigneur, mais aussi par notre effort, comme je l'ai dit, par le sacrifice aussi, parfois, que demande la louange, eh bien, que le Seigneur peut guérir notre regard. On a parfois des regards à guérir, des manières de regarder, parce qu'on souligne le négatif, on enferme l'autre dans ses défauts, on est dans une attitude de perfectionnisme, voyez. Et ça, je pense que ça nous tend des pièges. Et le pape Jean-Paul II, c'était très... J'ai un texte que j'aime beaucoup du pape Jean-Paul II, qui est dans, en 2001, dans une lettre apostolique pour le jubilé, le millénaire qui commence, ça s'appelait comme ça cette lettre, pour le millénaire qui commence, il a parlé de la spiritualité de la communion. Et il a dit à un moment donné, ce qui s'oppose à la spiritualité de la communion, c'est cultiver le perfectionnisme. Vous voyez, et j'aime bien aussi cette phrase de Chiara Lubich, ça vous dit quelque chose, Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, qui disait « Mieux vaut faire, attention, ça c'est une phrase qui tue, mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. » Je répète, « Mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. » Pourquoi elle disait ça? Ça, c'est un truc, moi, je me le redis toujours, etc. Mais je dis, mais ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, hop, 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 je sais faire, et voilà. Et elle dit non, parce que même si l'œuvre en tant que telle réalisée est imparfaite, qu'est-ce qui est important? C'est la communion. Et je trouve, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une tâche d'éducateur, comme parents ou grands-parents. Évidemment, les enfants, quand on a à faire quelque chose, je veux dire, c'est une gêne, surtout s'ils sont petits, surtout s'ils sont ados, etc., etc. C'est plutôt une gêne. Mais justement, l'éducation, voilà, tu vas aider maman, tu vas aider papa, forcément, ça va aller moins vite, forcément. Ça va être moins bien fait, c'est pratiquement à coup sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas une communion qui se joue là? Est-ce qu'il n'y a pas une communion? Et je trouve qu'il y a aussi, le pape Jean-Paul II parle de cette spiritualité de communion comme un principe éducatif pour le chrétien, pour les communautés chrétiennes. Et ce regard d'émerveillement, comme il le faut aussi nous y entraîner, le pratiquer en paroisse, comme moi-même en vie religieuse. Parce que c'est pas naturel, c'est pas une question d'optimiste. C'est pas une question de naïf, c'est surnaturel, c'est une grâce qu'il faut demander. Et cette grâce-là, l'émerveillement, permet la communion. Parce que, bien sûr, quand vous sentez que l'autre vous toise de la tête aux pieds, vous regarde comme ça, vous dévisage, vous n'avez pas beaucoup envie de vous livrer. Hein, somme toute, je pense que c'est l'expérience commune. Vous n'avez pas beaucoup envie de vous livrer. Mais quand vous sentez des regards d'humilité, des regards de bienveillance, des regards, voire d'admiration et de reconnaissance, là, c'est autre chose. Le cœur de l'autre s'ouvre. Le cœur de l'autre s'ouvre. Mais vous voyez combien ça demande un travail sur soi-même. Et le travail du Saint-Esprit en nous. Et ça demande vraiment d'avoir aussi une intimité avec la Vierge Marie. Parce que je crois que la Vierge Marie, c'est celle qui est rentrée dans une admiration. Celle qui est rentrée dans une action de grâce. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Et je pense que la prière et l'intimité avec Marie peut venir guérir aussi nos attitudes intérieures. Et peut venir guérir justement ces attitudes où on souligne le négatif. Je veux dire, on est tellement fait, mes amis, on est tellement fait de creux et de bosses. Il ne faut même pas être intelligent pour voir le négatif. Il faut juste être observateur. Juste être observateur. Il faut simplement regarder. La nature humaine est tellement fragile, tellement fragile. Facile à détecter le point faible, ou les points faibles. J'aime bien cette phrase du curé d'Ars qui disait « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu ». Mais justement, nous prenons conscience de cette fragilité, mais nous prenons conscience du regard de Dieu sur nous. Au fond, l'incarnation et au-delà de ça, la passion, la mort, la résurrection de Jésus, c'est d'abord un regard d'émerveillement du Père face à sa créature. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Jésus s'est donné, et on est dans cette démarche de carême, s'est donné jusqu'au bout par amour, précisément parce qu'il avait foi dans l'humanité, dans cette créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'en serait tenu, j'allais dire, à notre regard à nous, de voir le négatif, de voir le point noir dans la page blanche, d'être dans une attitude de perfection, bien jamais il ne serait allé jusqu'au bout de l'amour. Jamais il serait allé jusqu'au bout de l'amour. Quelque part, c'est vrai que ça demande... D'où ça demande, vous voyez, l'émerveillement? Ça demande un regard contemplatif. Regard contemplatif, ça veut dire quoi? Oui, nous, on n'est pas des moines, etc. etc. Bon, c'est pas ça. C'est pas une question d'état de vie, le regard contemplatif. Le regard contemplatif, c'est de voir la réalité comme l'accueillant de la main de Dieu et de découvrir la réalité comme étant belle. D'abord, ma propre personne, le prochain, la réalité qui m'entoure. Oui, je vois le mal et la souffrance, bien sûr, je le vois. Mais je suis aussi dans une attitude de foi qui me fait dire que la mort, la passion et la résurrection de Jésus ont eu raison de cette souffrance et de ce péché et de la mort. Alors oui, je pense que c'est important pour nous d'opérer un décentrage. Et au fond, le carême, c'est beaucoup ça, c'est opérer un décentrage. Vous savez, ce qui est difficile avec les chrétiens en général, les catholiques en particulier, c'est que on vous demande, mais il faut faire quoi pour se convertir? Il faut faire quoi pour se convertir? Donnez-moi des choses à faire. Alors on peut dire, ben vous pouvez aller à la messe, etc., mais ce n'est pas la messe qui va vous convertir, vous pouvez faire ceci, cela. Ça part toujours d'une démarche intérieure, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Ce n'est pas la réalisation d'actes extérieurs. Je fais ceci, je fais cela, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai fait ma religion. Non. Comme chrétien, on est toujours invité à un travail sur soi-même. Et l'émerveillement, très certainement, demande un changement de cœur, changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et ça, c'est vraiment le fruit, c'est un changement copernicien. Vous savez, Copernic qui disait, voilà, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Voilà, il faut se décentrer. Et ça, c'est un vrai challenge, quoi, un vrai carême, une vraie conversion. Et de fait, conversion, hein, vous connaissez l'étymologie du mot, se tourner vers quelqu'un qu'on aime, se tourner vers. Et ça, je pense que c'est très important que nous puissions nous détourner de nous-mêmes quelque part. Nous on a tellement la facilité parfois à s'enfermer en soi-même, à être quelque part, à vouloir être le centre de l'univers. C'est tellement naturel, c'est tellement humain, trop humain, que le Seigneur nous appelle à ce décentrement, à donner la primauté justement à l'amour. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer si ce n'est se décentrer de soi-même et mettre son centre dans l'autre, d'abord Dieu lui-même, qui est la source de tout amour. Et je crois que de ce point de vue-là, que l'émerveillement va être une source d'unité. Au contraire, on voit bien, et nous on le voit aussi en communauté, et puis aussi on peut le voir certainement en paroisse, quand on rentre dans la critique, et encore une fois, la critique est tellement facile. Quand on rentre dans la critique, quand on rentre dans dans souligner ce qui ne va pas à Madame Untel, Monsieur Untel, vous l'avez vu, etc., etc., la communauté ne se construit pas. En communauté, on se disait parfois, on était justement manquait de gaieté, etc. Alors, on avait pris une décision pendant que j'étais justement à la communauté d'Alsace. C'est une petite communauté, on était 7, donc on peut, là on est plus nombreux à Worshcorn, mais à 7, je veux dire, c'est difficile de fuir. Oui, mais bon, vous êtes 7, autant. Et puis vous n'êtes pas choisi, évidemment, et puis vous avez des âges différents, bref, c'est une communauté religieuse. Et on s'était dit, eh bien on va se remercier les uns les autres. On va se remercier les uns les autres. pour le travail quotidien. Chacun a un frère de cuisine, un frère est d'office, un frère est chargé de sonner la cloche, un frère est chargé de faire la lecture, etc. Bon, on va tâcher de se remercier. Mais combien ce petit geste tout simple a changé l'ambiance dans la communauté? Combien ce petit geste tout simple a fait que, un tel était chargé de faire les couches, merci d'avoir pris du temps pour ça. Un petit merci, pas à peine de s'étaler, etc. Mais voilà, l'autre voit aussi l'effort que je fais pour construire la communauté. Et l'émerveillement va dans ce sens. Il n'y a pas d'unité sans une admiration. À un moment donné, il n'y a pas d'unité dans une communauté, quelle qu'elle soit, communauté paroissiale, religieuse, communauté familiale, et ça c'est une culture. Vous voyez, c'est une manière de procéder, c'est un regard spirituel, c'est une attitude intérieure. Et donc dans ce sens-là, ça demande d'avoir un regard contemplatif. Et je pose la question: quelle est notre part de vie cachée? Qu'est-ce que j'entends par là? Quelle est notre part? C'est pas facile, alors surtout si vous avez des jeunes enfants, etc. C'est vrai que ça va très vite, ou dans le monde professionnel. Mais quelle est ma part de vie de silence, par exemple, dans ma propre vie? Quelle est ma part de vie contemplative, de vie de voilà où je me ménage un temps de prière? Mais aussi où j'ai ce regard du cœur qui fait que je vais aller percer, aller au-delà des réalités humaines, au-delà d'un regard simplement psychologique, mais un regard du cœur qui me fait découvrir l'être profond de l'autre et l'être profond de Dieu. Mais ça, vous comprenez, ça demande toute une vie, ça demande toute une manière de vivre aussi. Si je suis à 1000 à l'heure, comme on l'est malheureusement trop tous, forcément, l'autre ne sera pas efficace, donc je verrai tout de suite le point noir dans la page blanche. Donc, si je prends un temps de recul, un temps d'écoute, un temps de gratuité, comme ça nous est difficile. Mais c'est ça la vie cachée. Quelque chose qui n'est pas efficace tout de suite, quelque chose qui sert à rien. Vous savez, les moines, ça sert à rien. On dit, mais vous faites quoi? Nous, ça sert à rien. Complètement inutile. Mais en même temps, heureusement qu'on est là. Parce que je crois très fort que les monastères sont les poumons et les piliers de l'humanité. Mais justement, dans cette gratuité, dans cet accueil, mais vous voyez, le rythme du monde parfois nous rejoint. J'écoutais là justement des conférences sur interviewées par sur KTO par pour le conclave. Ils interviewaient un certain nombre de personnes et ils interviewaient un canoniste. Et le canoniste, il dit, vous savez, parce qu'on parle de la réforme de la curie, on parle de lutte de pouvoir, bon, il faut bien que les journalistes travaillent aussi. Mais, certainement qu'il y en a comme un peu partout. Mais lui disait, il faut faire attention, parce que le Vatican ou la curie, c'est pas l'ONU, c'est pas une représentativité par pays, il y a une dimension ecclésiale. C'est-à-dire une manière de faire église, une manière de construire l'église. Et la manière de construire l'Église, c'est que chacun y trouve sa place. Et je crois que c'est très important de voir que notre manière aussi de regarder n'est pas la manière du monde, ce n'est pas une manière à la manière sociologique, hein, on ne va pas faire, voilà, il y a tant de catholiques dans tel continent, on va faire tant de représentativité, de cardinaux, on va faire, etc. Non, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous comme Église? Et donc, du coup, je me mets dans une attitude d'écoute, de décentrement. Et ça, c'est très important. Mais vous voyez comme il faut se ménager. Et ça, c'est un vrai combat. Ça, c'est un combat spirituel. Se ménager des temps contemplatifs. Où je, simplement gratuit. Où je rends grâce. Où je remercie. Même si je suis dans l'épreuve. Il y a toujours manière de remercier. Il y a toujours, ne serait-ce que d'avoir le don de la foi. C'est une grâce. Une grâce énorme, qu'on ne mesure absolument pas. On la mesure face à d'autres personnes qui ne l'ont pas, et on voit bien combien... Et donc je crois que c'est vraiment ça qui nous fait connaître Dieu, ce chemin intérieur. C'est ça qui nous fait naître avec Dieu, cet émerveillement. Et cette attitude contemplative. C'est ça qui nous permet d'accéder, au fond, à la vérité des choses. Alors c'est un choix, mes amis, hein. C'est vraiment un choix. Ça, je pense que ça... Et ça, à la fois c'est un choix, à la fois c'est un combat. Et à la fois c'est une grâce. C'est comme tout hein, dans la vie chrétienne. À la fois c'est de Dieu, à la fois c'est nôtre. Alors je pense que comme communauté peut-être paroissiale aussi, de se dire, voilà, qu'est-ce qui va rayonner dans la paroisse, qu'est-ce qui va rayonner dans la communauté ou la famille, c'est l'unité. Qu'il soit un pour que le monde croit. Alors on fait des tas de plans pastoraux, on parle de la nouvelle évangélisation, et ça c'est très bien, mais Jésus nous donne un truc clair, soyez unis, que l'amour circule entre vous, et le monde va croire. Et c'est clair que nos divisions, nos jugements, nos a priori, nos regards perfectionnistes et de condamnation sont des freins à la diffusion du royaume et à l'amour de Jésus sur terre et à la foi par rapport aux autres. Certains sont découragés à cause de ça. D'autres le prennent comme excuse. Ils disent, vous avez vu, ils sont à la messe, ce qu'ils disent après, etc. Bon, c'est parce qu'ils n'aiment pas se lever le dimanche matin, ils préfèrent prendre des croissants. Mais parfois aussi, il y a des vraies coupures dans des communautés, dans des familles, qui ne font pas progresser le royaume de Dieu. Donc on a, vous voyez, dans notre responsabilité, dans notre regard intérieur, on a une responsabilité qui va au-delà de nous. Et c'est toujours comme ça dans l'Église. Dans la vie chrétienne, c'est toujours comme ça. On ne vit pas pour... Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. C'est, on a ce sentiment d'être communauté, vous voyez, donc ce sentiment de... Quand je livre un combat intérieur, ce n'est pas que pour moi que je le livre. Je porte avec moi d'autres... Cette dimension de communauté, de corps. Et donc, c'est vrai que si je commence moi-même à être dans une attitude d'action de grâce, à remercier les gens, merci pour... On voit quelqu'un qui travaille, voit un chantier, etc. Mais merci pour votre travail. On croise des gens. Rien que ça, un petit... Mais on n'a tellement pas l'habitude. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander de l'argent, il va... Vous voyez, c'était le Daniel Ange, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Daniel Ange, prêtre charismatique, etc. Il était allé place du Trocadéro, un peu original, vous verrez, et il était allé avec un sac d'oranges en voulant offrir des oranges aux gens. Mais il n'en a pas distribué une. Les gens l'ont regardé comme ça... Trocadéro, 16e et tout. Mais il est resté avec ses oranges. Mais vous voyez, je pense que le monde est plus clair et plus lumineux par des petits gestes. Les changements viennent toujours de l'intérieur. Les grands changements historiques viennent de l'intérieur. Toujours. Et viennent de choses qui ne se voient pas. Et le contemplatif, précisément, c'est celui qui a un regard qui plonge dans ce qui ne fait pas de bruit. Qui n'est pas en haut de l'affiche. Mais comme on a besoin du Saint-Esprit pour ça, vraiment on a besoin de parce que justement c'est de toujours, parce qu'il y a comme une forme de négativité parfois qui, alors ça dépend un peu des tempéraments, la psychologie joue aussi, ça c'est sûr. Mais c'est pas elle qui a le dernier mot, comme je vous l'ai dit. Mais il faut la débusquer, cette négativité. Il faut la débusquer. ne serait-ce qu'apprendre à dire merci en famille. Vous voyez, avec les hommes, ça c'est un geste éducatif, pédagogique. Du coup, voilà, je vois le travail de l'autre. Je ne suis pas centré sur moi, sur mes besoins, sur mais je vois aussi ce qu'a fait l'autre. Et je valorise ce qu'a fait l'autre. Mais je le vois aussi comme un don de Dieu dans une dimension spirituelle. Combien de personnes, pour éclairer leur vie, n'attendent qu'un merci? Et nous qui avons tant reçu, grâce sur grâce. Il y a un vrai choix dans nos vies. Il y a une vraie décision dans la communauté, dans la famille, dans la paroisse. Changer de regard, rentrer dans l'émerveillement. Alors c'est vrai que ce sera un chemin de croissance, marqué clé de croissance spirituelle, parce que forcément, j'allais dire un petit mot, mais je vais commencer à voir aussi le royaume de Dieu autour de moi, forcément, en rentrant dans cette dynamique-là, d'action de grâce, de louange, il y a des portes qui vont s'ouvrir, c'est évident, le Saint-Esprit est là à l'œuvre. Et ça, parce que l'humilité est là à l'œuvre. Au fond, l'émerveillement, c'est d'abord une attitude d'humilité. Alors, ça va rayonner. Mais ça implique aussi, moi j'y pense en même temps que je vous parle, ça implique aussi des réconciliations. S'implique des réconciliations. Je vous disais, le plus grand obstacle à l'émerveillement, c'est ce côté, cette négativité, mais aussi parfois cette colère. Cette colère qui est parfois en nous. Et moi, je trouve très beau le livre de Job que vous connaissez, en tout cas de mémoire ou de nom. Job, donc c'est un livre sapientiel, donc de la sagesse d'Israël, un livre inspiré qui certainement rassemble un conte inspiré, qui rassemble un certain nombre d'expériences humaines. Et Job, vous le savez, qui a tout perdu, il a perdu et sa femme et ses 7 fils et son troupeau et sa maison, et puis maintenant au niveau de sa santé, tout tombe en ruine. Et il s'adresse à Dieu. Et il en veut à Dieu. Et puis viennent trois amis qui essayent de le consoler. Vous verrez, c'est un très beau conte, c'est vraiment un très beau livre dans les passages de la sagesse. Trois amis qui viennent le consoler, qui représentent au fond les trois figures de la sagesse d'Israël, un peu les trois manières de... Voilà, si tu es dans cet état, c'est que tu as péché. C'est ce qu'on pensait. Hein. Vous vous rappelez Pierre face à l'aveugle de naissance et il demande à Jésus, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Parce que si on a des tuiles, c'est forcément, voilà, ou ça vient du péché des parents jusqu'à la 7e génération, ou c'est mon péché. Ou alors, est-ce que justement tes parents ont péché? Ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Lui, au fond, quelque part, ces amis-là essayaient de justifier Dieu. Il faut faire attention à ça aussi. On peut, nous aussi, face à des situations de souffrance, justifier Dieu. Or, c'est Dieu qui nous justifie, qui nous rend juste. Et parfois, on a parfois des paroles, oui, il n'y a pas de croix sans résurrection, comme ça, bien sûr, quelqu'un qui vient de perdre son emploi, perdre sa santé, etc. Ben, tout est grâce. Bon, faut peut-être y aller un peu mollo. Hein, c'est possible que tout est grâce, mais il faut peut-être laisser le temps à la personne de le découvrir. Donc, attention avec nos manières, justement, à l'image de ces trois amis hein, qui figurent la tradition d'Israël. Et puis vient un dernier ami, Élieu. qui ne résonnent pas du tout pareil. Hein, Élie, qui au contraire invite à l'admiration. Invite à l'admiration. Invite à l'émerveillement. Et donc Dieu, alors que Dieu était resté muet pendant tout le livre de Job, Dieu s'adresse et invite Job à sortir justement de la colère par l'émerveillement. Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle, si ton savoir est éclairé. Qui en fixa les mesures? Le saurais-tu? Ou qui tendit sur elle le cordeau? Sur quel appui s'enfonce ses socles? Qui posa sa pierre angulaire parmi les concerts joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu? Qui enferma la mer à deux battants quand elle sortit du sein bondissante? Quand je mis sur elle une nuée pour vêtement et fit des nuages sombres ses langes? Quand je découpais pour elle sa limite et plaçais portes et verrous? Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. As-tu une fois de ta vie commandé au matin, assigné l'aurore à son poste, pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants? Alors elle la change en argile de seau et la teint comme un vêtement. Elle ôte aux méchants leur lumière, brise le bras qui se levait. As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulé jusqu'au fond de l'abîme, etc. Et tout Dieu qui s'adresse à Job et qui regarde les merveilles que j'ai faites. Regarde ce que j'ai fait. Où étais-tu? Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Saint Paul qui dit ça. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on voit Job, justement, qui après sort de sa colère, sort de ce sentiment d'injustice qui est réel, parce que perdre ses enfants, perdre sa femme, perdre sa santé, ses biens, etc., forcément il y a une colère, forcément il y a une violence. Forcément. Mais on ne peut pas vivre que dans la colère dans une vie. Ce n'est pas possible. C'est pas chrétien. Alors on fait ce qu'on peut. Restons modestes. Et puis on demande la grâce de Dieu. Mais justement, la confession, par exemple. La confession, j'aime bien cette phrase de Saint Benoît. Il dit, se confesser, c'est fracasser la tentation contre le Christ. Fracasser la tentation contre le Christ. C'est-à-dire, je viens offrir à Jésus mon combat. Peut-être, oui, je suis dans la colère. Peut-être, oui, je suis dans cette négativité. Peut-être, je suis dans cette sorte de violence intérieure. Mais je ne veux pas que ça ait le dernier mot dans ma vie. Je ne veux pas que c'est en moi, mais ce n'est pas de moi. Alors je viens le présenter comme un pauvre au Seigneur et recevoir par le prêtre le pardon. Très beau livre de Job, hein, vraiment un très très beau moment. Hein. Au fond, l'émerveillement, c'est aussi l'attitude de Jésus face aux pauvres et aux pauvres de cœur, aux petits. Je te bénis, Père, parce que tu as révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux savants. Au fond, c'est un appel à aller plus loin. C'est un appel à rentrer dans la béatitude du pauvre. Et le pauvre, ce n'est pas tant celui qui n'a pas que celui qui ne peut pas. Ce n'est pas une question d'avoir, de matériel, que celui qui, d'une manière ou d'une autre, vit une impuissance. Et pourquoi c'est une béatitude? Parce que précisément, et c'est la première qui résume toutes les autres, c'est une béatitude parce que je prends conscience que je dépends. Et l'émerveillement, c'est justement découvrir que la dépendance, parfois la grande dépendance, dans les personnes âgées ou dans les nourrissons, la grande dépendance n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Mais ça, je crois, il faut toute une vie. Il faut toute une vie pour devenir pauvre, si vous ne devenez comme des enfants. Et c'est vrai que je trouve que là, le service des personnes plus pauvres, vous savez que l'Église de France est dans cette démarche de diaconia 2013, vous en avez certainement entendu parler, pour ceux et celles qui sont peut-être plus impliqués dans la vie de la communauté. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors c'est vrai que l'Église n'est plus la seule à s'occuper des personnes en nécessité, il y a des tas d'œuvres caritatives, laïques, etc. Mais nous avons justement, je trouve qu'il faut bien prendre conscience, dans notre manière comme chrétien d'être au service des plus démunis, il y a quelque chose de différent. On s'adresse à toute la personne, jusque dans sa dimension spirituelle, jusque dans son salut. On ne s'adresse pas qu'à son estomac. On s'adresse à toute la personne. Bien sûr que l'estomac doit être rempli, sinon, bien sûr. Mais c'est important. Et puis on a un regard de foi sur la personne. Moi, j'ai vraiment beaucoup été marqué par mon ministère en Argentine auprès des prisonniers comme aumôniers. Et ça m'a fait beaucoup progresser. Parce qu'en même temps, je sentais, on me pose la question, est-ce qu'il y a eu beaucoup de conversions ? C'était compliqué, c'est des gens très pauvres socialement, que des bidonvilles, dans des bidonvilles pratiquement exclusivement, etc. Mais comme c'est important d'être au milieu de ces personnes comme un prêtre et de porter un regard de bienveillance sur des gens qui avaient fait le mal, et puis pas qu'un peu. Des gens très pauvres. Et je pense que ce qui relève d'abord, c'est un regard. Oui, on doit secourir matériellement, bien sûr, mais un regard habité par le regard du Christ. Mais ça veut dire que ce regard du Christ aussi, je me découvre pauvre face à lui. Vous voyez, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. D'abord de faire cette expérience, et on voit bien dans nos vies, il y a multiples expériences d'accueillir les contretemps, d'accueillir parfois les maladies, les incompréhensions, les disputes, d'accueillir, voilà, d'être dans une attitude au fond d'accueil et qui fait que voilà et que je supplie la grâce, je suis parce que le pauvre c'est celui qui ne peut pas. Alors je pense que c'est une clé de l'émerveillement, ça aussi. Quelle est la place donnée aux personnes plus pauvres, ou notre attitude, ou notre... C'est une de dire ne serait-ce que merci, c'est une attitude de pauvre, je trouve. C'est de reconnaître le don de l'autre, et le don qu'est l'autre. Et que tout un chacun... Je vous disais, voilà, celui qui... Vous voyez, dans la commune, il y a un chantier, voilà les ouvriers, merci pour votre travail. Merci à mon épouse, merci à mon époux, merci, voilà. C'est une attitude de pauvre. Alors on va la demander ensemble, parce que je pense qu'il nous faut la prière, et la prière encore une fois de la Vierge Marie, qui a eu cette attitude de foi face à Jésus. Marie, de ce point de vue-là, est une éducatrice de la foi, parce que toute sa vie, elle a vécu de foi. Et Jean-Paul II le dira, elle a engendré par la foi. Elle a engendré par la foi. Bien sûr, l'ange est venu, mais c'était un moment dans sa vie. Mais tout le reste, c'était la vie que nous vivons. Alors demandons, tournons-nous vers la Vierge Marie vraiment pour demander cette grâce de la conversion, du regard. Cette grâce de l'admiration, de la louange, du cœur de pauvre. Cette grâce de l'unité. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Peut-être il peut y avoir un petit temps d'échange, si vous le souhaitez, ou des questions. Oui. Oui, et Dieu il dit, c'est Job qui a bien parlé, oui. C'est étonnant, hein, à la conclusion, au fond, il justifie, c'est assez beau de voir ça, il y a un psaume comme ça qui dit un verset, la colère des hommes te rend gloire, à un moment donné, la colère des hommes te rend gloire. Et il justifie, comme pour dire, ça fait partie aussi des étapes humaines, de cette humanité qui est la nôtre, parfois de passer par la colère. Mais en même temps, il invite à sortir et à aller dans l'émerveillement en montrant toute la création. Et ça, c'est je vous invite vraiment de relire les derniers chapitres comme ça du livre. Voilà. Et Job fit cette réponse au Seigneur. Je dis, je sais que tu es tout puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui voile tes plans. Par des propos dénués de sens, aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est très beau ça. Je ne te connaissais à travers l'épreuve, je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Passer par l'eau et le feu et sortir dans l'abondance. Et je crois que ça c'est important de dire ça, c'est que quelque part aussi par rapport à nos colères, le Seigneur jette un regard de bienveillance. Ouf. On a échappé belle là, parce que là. Mais ne nous enfermons pas, parce que la difficulté de la souffrance, si vous voulez, c'est ce repli sur soi, qui est tellement naturel, c'est tellement humain. C'est une étape, certainement. Mais le Seigneur nous appelle à plus. Alors, c'est Jean Vanier qui dit... Il y a deux âges très bénis dans la vie. C'est la petite enfance et c'est le grand âge. Comme je vous l'ai dit, là j'ai perdu mon papa, donc que j'enterre demain, qui était à la fin de sa vie complètement dépendant jusque les choses les plus intimes. Pas facile de comprendre ça. De dire au fond que c'est vraiment l'attitude de Jésus de se remettre entre les mains des hommes. David, quand il a péché avec Bethsabée, etc., et le prophète lui dit, que veux-tu, je te propose la mort de ton fils, je te propose, je ne me rappelle plus les trois choses. Mais il y avait trois choses. Il en a choisi une. Il a dit, une chose, c'était la peste. Il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Donne-moi la peste. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré entre les mains des hommes. Et je trouve que nous, comme chrétiens, on a un regard par rapport à la dépendance, ce serait un autre sujet, mais qui n'est pas le même que les autres. Et je crois que c'est tout un cheminement spirituel d'une vie offerte, au fond, d'un abandon, d'une remise de soi, et en même temps fait de colère, forcément. Mais moi, je crois que j'ai pu vraiment voir ça chez mon père. De fait, c'est cette grande dépendance. J'ai vraiment dépouillé pendant des années de maladie. À la fin, demander au Seigneur qu'il le prenne, vraiment. Mais vraiment de découvrir justement ça. C'est une clé de croissance spirituelle. C'est Jean-Paul II qui dit, il y a beaucoup de choses qui font connaître Jésus. Il y a la prière, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la théologie, il y a les livres saints, etc. Mais il y a une chose qui fait découvrir qui est le Christ, c'est vivre sa passion. C'est vivre sa passion. Ça, et quand il disait ça, on sait aussi qu'il a vécu dans cette grande dépendance. Ça, ça fait connaître qui est le Christ. Mais vous voyez, sans un éclairage humain, chrétien, pardon, seulement livré à nos psychologies, un éclairage humain, c'est juste absurde. Mais au fond, la grande question de nos vies, est-ce que la vie est un absurde ou est-ce qu'elle est mystère? C'est ça la vraie question de nos vies. Est-ce que cet enterrement que je vais célébrer demain, c'est absurde? Parce que je me rassure, parce que j'ai besoin d'une béquille? Ou est-ce qu'il y a un mystère qui se cache là? Vous comprenez? Oui, c'est à peu près clair. Mais ça demande, vous voyez, ça demande vraiment une vie. Mais je trouve qu'il y a, dans les fins de vie, alors bon, il y a parfois des personnes qui ont des fins de vie très angoissées, etc., mais aussi dans les débuts de vie. C'est pas pour rien que l'Église est très attachée au début et à la fin de vie, mais aussi entre les deux. Mais parce qu'il y a quelque chose du mystère de l'homme et du mystère de Dieu qui se révèle. Dans la grande fragilité. Alors bien sûr, quand on est dans l'âge, on peut dire la force de l'âge, bien sûr, ben, on agit, etc. Mais au fond, si tu ne renais pas, si tu ne renais pas d'en haut, c'est-à-dire si tu ne changes pas ton regard, ta manière de voir à la manière de l'émerveillement, à la manière des pauvres. Mais d'autres questions peut-être sur... Parce que ça ouvre beaucoup, beaucoup de questions. Ça ouvre des vraies questions de société d'abord, évidemment, mais ça ouvre aussi des questions personnelles dans nos familles et puis peut-être personnellement.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet émerveillement passe
pour
de la naïveté?
Pour les autres, oui. Ben, est-ce que Jésus a vécu autrement? Est-ce que c'est pas paru? Est-ce que ça a vraiment été compris? Pas vraiment.
C'est agaçant.
Ah ben oui, c'est agaçant, surtout pour notre orgueil, je veux dire. Parce qu'on aimerait bien, au contraire, on dirait, ah, voilà un saint. Donc, bien sûr que c'est agaçant. Mais en même temps, vous savez, beaucoup de gens qui n'ont pas la foi nous envient. Je vous assure. Moi, comme ça, j'ai parlé avec une personne, ça m'a beaucoup étonné. C'est là où on voit que c'est... J'aimerais tellement croire. Mais j'y arrive pas. Ce qui prouve que la foi n'est pas une attitude, c'est pas la méthode Coué, hein, c'est pas l'auto-persuasion, on va pas se mettre tous en rond et on va dire, voilà, on va croire, mais voilà, c'est la foi. Non, c'est pas ça, la foi. Ça, c'est autre chose, ça, c'est la manipulation de groupe. Mais en même temps, les gens nous envient. Parce que ça rend heureux. Ça rend heureux. Et ça rend heureux les autres. Ah, oui. Alors, ça, c'est une autre question, là. Je laisserai parler le Père qui va parler sur la foi, ça, tu parles. Ben, tu parleras de la foi. Voilà. Je botte en touche. Parce qu'on ne peut pas. Alors, oui, c'est un don de Dieu, mais c'est un mystère en même temps. Voilà, ce n'est pas automatique. C'est un don de Dieu, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui aimeraient croire, baptisées, qui ont reçu. Mais qui. Alors, c'est un mystère pour moi, je dis tout de suite, comme mystère, hein, mais qui aimeraient bien croire, qui aimeraient. Et qui dit : je vous envie, vous les croyants. Alors, dans ces cas-là, il n'y a rien à dire, parce que c'est justement, faut pas être comme les amis de Job qui viennent justifier Dieu. Il faut écouter la question, il faut... Je suis avec toi, je prie pour toi. On n'est pas là pour convaincre. C'est pas du prosélytisme. Hein, c'est la petite Bernadette hein, qui voit la Vierge Marie, etc. Et puis, évidemment, quelqu'un vient vous dire « Je vois la Vierge Marie », tout de suite, suspicion. Quoi. On se dit « Oula, ça débloque sérieusement. » Donc, du coup, et puis, vous connaissez, elle va voir son curé, etc. Et puis, elle lui dit « Je suis chargé de vous le dire, je suis pas chargé de vous le faire croire. » Point. Maintenant, nous, on a témoigné par notre présence, l'écoute de personnes qui sont dans la douleur, dans le deuil. C'est perdre une fille, c'est quelque part un enfant, c'est pas l'ordre naturel des choses. Mon papa avait 80 ans, etc., c'est tout à fait autre chose. Dans ce sens-là, est-ce que ça ne sera pas un chemin pour lui? Est-ce que ça... Et parfois, c'est plus des interrogations. Et parfois, il faut simplement dire, je suis là et c'est tout. Mais en même temps, vous savez, beaucoup de gens comme ça qui vivent le deuil, et qui le deuil est traumatisant, j'entends, tout deuil est traumatisant, mais des deuils comme ça assez violents, subis, il y a toujours ce sentiment, quelque part, la vie ne peut pas prendre fin. Alors, soit on se dit ça pour se rassurer, pour se faire une petite musique, hein, mais je pense que c'est, pour beaucoup de gens, il y a cette question de la vie éternelle, ça les taraude. Parce que quelque part, cette humanité-là, ça peut pas. Il y a quelque chose qui résiste en nous au fait que ça se termine dans le néant. Et voilà, donc je pense que c'est toute la pastorale des funérailles, etc. Hein, vous avez certainement des équipes de funérailles où chaque fois, autant que faire se peut, je crois que c'est très important d'être là parce qu'on a une parole à donner, mais d'abord une écoute à donner. Marxisme, oui.
Comment faire? Comment s'émerveiller? Vous faire transmettre votre émerveillement à des gens?
Quelque part, c'est eux qui le transmettent. C'est eux qui le transmettent. Vous voyez, je pense que c'est parfois. C'est là où je trouve pas, justement, il y a toujours un grand danger quand on est au contact de personnes plus pauvres. On peut tomber, justement, dans cette forme de lutte des classes, les riches, vous êtes des méchants, les pauvres, c'est les gentils, etc. Ça n'a pas du tout été le discours de Jésus, mais pas du tout. Et je crois que, au contraire, ça demande, moi je crois que c'est un chemin spirituel. C'est d'abord un chemin politique, vous voyez, c'est un chemin spirituel, intérieur. Et je pense qu'au contact de personnes comme ça, en grande marginalité, c'est un appel aussi. Mais rien que le fait d'être là, rien que de... moi, j'ai été touché par des tas d'attentions de prisonniers, par exemple. Moi, je trouve que ça a été vraiment très beau. Ça a eu des tas d'attentions, des tas de personnes dont l'humanité était très pauvre. Très pauvre en humanité. Tel point que un peu être plus léger, mais je faisais beaucoup de baptême. Alors les papas étaient en prison évidemment, et puis les parrains étaient les amis des papas, donc c'était les parrains à tous les sens du terme. Donc déposer la Kalachnikov à l'entrée de la chapelle. Donc pour vous dire. Vous savez, dans un rituel de baptême, à un moment donné, on pose la question, le prêtre pose la question, quel nom avez-vous donné? Et je me tourne vers le papa, quel nom avez-vous donné?
Et la maman, elle me regarde. Les hommes, ça sert à faire les enfants, mais après, ça sert plus à rien du tout. Ça fait même pas le nom. Pour vous dire, la grande pauvreté, je veux dire, c'est quand même fort. Donc, mais bon, c'est bon, juste pour mettre un peu de touche de légèreté aussi, mais je crois que c'est... Voilà, c'est des personnes qui ont... Mais en même temps, leur faire découvrir, je trouve, qu'ils sont capables aussi de tendresse, qu'ils sont capables... Et je trouve... Et ça, c'est vrai, bon, pour les prisonniers, moi, tout le monde n'est pas appelé à travailler en prison, etc. Mais je trouve aussi pour des personnes qui sont difficiles de caractère, des personnes acariâtres, vous voyez, des personnes qui... dont le caractère qu'on n'aime pas fréquenter. Leur faire découvrir qu'elles sont capables aussi de gestes beaux. C'est, encore une fois, pour reprendre Jean Vanier, mais que je trouve un grand prophète, dit, quand vous voyez une personne comme ça difficile à vivre, vous vivez combien ? 5 heures, 6 heures avec elle ? Elle vit 24 heures sur 24 avec elle-même. Et donc, je crois que, vous voyez, sans aller dans des parce que tout le monde n'est pas appelé à ce ministère de la prison, mais ça, c'est une forme de pauvreté. La personne qui n'arrive pas à rentrer en compte, c'est une sorte de handicap relationnel. On voit des personnes comme ça dans nos communautés. Ils ont du mal, ils ont de la misère. Comme c'est important que ces personnes rencontrent ces personnes souvent agressives, ces personnes qui piquent, et voilà que ça bon, du coup, c'est pas, c'est sûr que on a envie de prendre ces gens à son cou, mais comme c'est important qu'on puisse avoir un regard justement autre. Mais ça demande soi-même, vous voyez, tout un travail pour accueillir aussi, c'est une forme de souffrance de l'autre, accueillir l'agressivité de l'autre. Et puis un travail spirituel de lui découvrir l'œuvre du Saint-Esprit, que le Seigneur travaille son cœur et qu'elle est capable, cette personne, de quelque chose de beau et de bien et de vrai. Et ça, c'est accessible à chacun. Vous voyez ce que je vous dis là ? Personne ne peut dire c'est trop élevé pour moi, personne ne peut prétexter, c'est tout simple. Et en même temps, ô combien exigeant, intérieurement, et combien de conversions ça demande, et combien de supplications du Saint-Esprit et pour vraiment venir à notre aide, et changer justement ce cœur de pierre. C'est pour ça que le carême revient régulièrement. De même qu'on se lave régulièrement les mains avant de passer à table, qu'on prend tous les jours sa douche, etc. On dit, oui, mais je vais pas me confesser, je sais que je vais pécher après. Ben oui, ben c'est, quand on se confesse, on a le ferme désir de ne pas recommencer. Hein? Mais bon, si c'est pas parce qu'on va se salir les mains qu'on va pas se les nettoyer, sinon ça va devenir infernal, quoi. Donc ce qu'on comprend pour le corps, pourquoi est-ce qu'on ne le comprend pas pour l'âme? Alors voilà, demandons, je vais arrêter là, mais demandons vraiment au Seigneur que voulez-vous partager ces quelques moments, ces quelques réflexions, pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres. On a besoin de s'encourager. Encouragez-vous, je crois que c'est Saint-Pierre, moi, un peu plus. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous dans l'amour. Et c'est simple, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez, signe que faire le bien lasse. Évidemment. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et c'est, je crois que c'est au cœur aussi de cette nouvelle évangélisation. Ce changement intérieur. Voilà, si vous avez plus de questions, je vous propose qu'on puisse terminer en se tournant vers la Vierge Marie.